BFM Business et la Tribune présentent les experts. Ludovic de Sauté.
Bonjour, jeudi 30 avril, bienvenue dans les experts, là où l'économie se décode et se raconte sans détour. La Réserve fédérale a donc rendu son verdict hier en fin de journée. Sans surprise, les taux demain ont changé à ce stade, car si l'économie américaine reste solide, elle, l'inflation s'éloigne à grande vitesse de la cible. Le message est donc clair pour ce dernier acte de Jérôme Powell qui quitte la présidence de la Fed, mais il restera en qualité de gouverneur. On attend, on observe, de quoi crisper Donald Trump. Et maintenant, place à la BCE qui s'exprime ce jeudi, même scénario probable, mais jusqu'à quand ce statu quo est-il tenable alors que l'énergie reste à des niveaux de prix très élevés? Le baril ce matin dépasse les 120 $ et, très mauvaise nouvelle, on va y revenir, la croissance de la France au premier trimestre tombe à 0%. En Europe, et notamment en France, c'est une offensive silencieuse mais méthodique qui se joue pendant ce temps. Les constructeurs automobiles chinois ne se contentent plus d'exporter, ils s'installent. Objectif, contourner les droits de douane et capter le marché en utilisant des usines européennes qui tournent à moitié à vide. De l'Espagne à la France, les discussions s'accélèrent, notamment chez Stellantis. Derrière une réalité brutale, l'Europe a des capacités en trop, la Chine des volumes en trop, et la rencontre des deux phénomènes pourrait bien rebattre toutes les cartes du secteur automobile, d'autant plus que l'avance française et européenne en matière de R&D a fait pchit. Retraversons l'Atlantique pour cette fois parler de la tech. Beaucoup de résultats ont été publiés hier qui confirment désormais que les géants vivent sous le signe du duo Cloud IA, porté par l'explosion notamment de l'accélération des usages IA. Reste une question en toile de fond. Les investissements colossaux dans l'intelligence artificielle sont-ils soutenables dans le temps et surtout rentables à terme? Une question qui déclenche une fébrilité certaine dans un secteur où l'unité de base pour compter est devenue la centaine de milliards de dollars. Rien que ça. Les experts, c'est parti.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.
Bonjour, chers experts, merci d'être avec nous pour ce dernier jour avec une ambiance un peu valise, départ de train, vacances et tout ça. On a le plaisir d'accueillir Laurent Vromsky. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin, directeur général d'Hervor. En face de vous, Christian Monboissieux. Bonjour Christian, merci d'être avec nous, vice-président du Cercle des économistes. Et à vos côtés, Olivier Luancy. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, professeur au CNAM et auteur de Réindustrialiser le défi d'une génération. Beaucoup d'actualités économiques là ces dernières heures. On va essayer de les reprendre un petit peu chronologiquement et puis de faire des focus parce qu'il y a, elle continue à se développer quasiment en temps réel ce matin. Il y a une prise de parole donc de la Fed qui était attendue, pas de surprise, taux inchangé. Dernier acte pour Jérôme Powell qui va rester quand même au bord de la Fed, mais au-delà de ça, des commentaires quand même qui commencent à devenir de plus en plus inquiets au sein de la Fed avec des dissensions. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant de divisions. Je vous regarde Christian au sein de la Fed. Avec quand on regardait les notes de la dernière réunion de la Fed, c'était une inflation qui s'emballait. Maintenant, le mot légèrement a été gommé et on voit que la crispation commence aussi à agiter par rapport à l'environnement macroéconomique et la guerre au Moyen-Orient, commence à agiter la Fed. Quel bilan vous tirez un peu de cette prise de parole?
D'abord, je dirais les faits sont têtus et l'inflation a beaucoup monté sur le seul mois de mars. Il faut partir des chiffres. En mars 2026, sur 12 mois, l'inflation américaine a été à 3,3%, donc en rythme annuel. En février, elle n'était que de 2,4%. Sur un mois, un point de plus. Et je pense que ça n'est pas fini, car même si les Américains sont, j'allais dire, autosuffisants de point de vue énergétique, ils sont quand même très influencés par l'évolution des prix internationaux, du pétrole, du gaz, etc. Et donc, ma prévision, je peux me tromper, hein, mais ma prévision, c'est que le 3,3 en rythme annuel de mars, je parle de l'inflation américaine toujours, va continuer à monter. La Fed, comme les autres banques centrales des pays avancés, a un objectif de 2% d'inflation, j'allais dire sur le moyen terme. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir 2% chaque année, mais disons, les banques centrales disent, si on a un peu plus une année, si ça se compense l'année d'après, pourquoi pas. Mais attendez, les chiffres que j'ai rappelés montrent que la Fed est quand même, s'éloigne de plus en plus de son objectif d'inflation de 2%. Ça va peser, ça pèse déjà sur la consommation, parce que ça pèse sur le pouvoir d'achat. Les Américains, comme chez nous en France, la remontée de l'inflation a déjà commencé à peser sur le pouvoir d'achat. Et ça va peser sur les élections de mi-terme de novembre. Parce que, comme disait l'autre, is the economy stupid. C'est, je veux dire, le résultat des mi-termes en novembre va quand même pas mal dépendre du contexte économique qui se présente pas très bien, en tout cas du côté des prix. Alors, je termine en disant que la Fed est pris entre deux feux, parce que d'un côté, le président américain qui respecte pas l'indépendance de la Banque centrale réclame depuis deux mois des baisses de taux. Il y en a eu qui sont intervenues légères, mais là, la Fed, clairement, elle a quand même un mandat. Elle a un mandat dual, c'est-à-dire inflation croissance et emploi de l'autre côté. Mais enfin, je veux dire, quand vous regardez les chiffres, certes, la croissance américaine ralentit un peu, le chômage augmente un peu à partir de niveaux qui sont relativement bas, je parle du taux de chômage, mais quand même, le danger à court terme, c'est plus l'inflation du côté américain que la récession. Je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de la France. Vous avez évoqué les chiffres. On va en parler, les chiffres de la France au premier trimestre. Mais les États-Unis ne sont pas en récession aujourd'hui. Donc la Fed, elle doit faire le job. Et je pense qu'avec le nouveau président qui s'appelle Kevin Warsh, qui a l'air d'être pas mal sur le plan, je veux dire, du raisonnement économique. Moi, je le reçois à son examen, si vous permettez de jouer mon rôle de prof. Bon, il va être confirmé parce qu'il y avait un blocage du côté d'un sénateur républicain.
La situation est en train de se dénouer.
Voilà, qui disait si Monsieur Trump continue à chercher des poux dans la tête de Jérôme Powell sans le laisser tranquille jusqu'à la fin de son mandat, et ben moi, sénateur républicain, je voterai pas la confirmation du nouveau président et ça se joue à très peu de temps. Donc, Kevin Warsh va être confirmé, mais il arrive dans un contexte où, devant le Sénat, depuis une semaine, il jure par ses grands dieux qu'il va respecter l'indépendance de la Banque centrale, sous le feu, j'allais dire quasi quotidien, du président américain qui lui dit « faut baisser les taux ». C'est pour ça que je vous ai nommé. Voilà, voilà le contexte.
Réaction, Olivier Hollande, sur, on va dire, ces commentaires au-delà du rôle de Jérôme Powell, hein, c'est-à-dire l'état de l'économie américaine, tout simplement, finalement.
Alors, moi, j'ai aussi des chiffres, c'est pas les mêmes. Nous, on est très en amont, mais qui corrobore exactement ce que vient de dire Christian, parce qu'on travaille beaucoup avec les États-Unis. Nous, les chiffres qu'on a, si vous voulez, c'est les factures d'achat. Notamment les factures d'achat pour le transport, pour les carburants, mais pas que. Pas que. C'est-à-dire qu'il faut oublier, il faut pas oublier qu'il y a toute une série de composants qui rentrent dans la fabrication de nos produits. Et là, les fournisseurs n'ont pas perdu un instant pour rehausser les prix. Il faut pas aussi.
Ça a été très immédiat, ça.
Ah, mais ça a été quasi instantané. Je veux dire que l'économie réagit immédiatement. Il faut savoir que les chiffres dont parle Christian, je veux dire que c'est une statistique. C'est-à-dire que on regarde, c'est un film, on regarde ce qui s'est passé depuis trois mois. Nous, c'est instantané, je peux vous le dire. La deuxième chose, il faut pas oublier qu'avant le début du conflit, les mesures de Monsieur Trump sont très largement inflationnistes. Et ça, on l'a oublié. Notamment, toutes les questions qui sont liées à la main-d'œuvre, qui est comme l'un des drivers principaux de la reprise de l'inflation. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un vrai sujet sur de la main-d'œuvre qualifiée, de la main-d'œuvre tout court. Donc ça ne s'est pas évaporé comme par enchantement. Donc moi, je ne sais pas lire l'avenir, ça saurait. Mais je pense qu'on n'est pas du tout dans une hausse de prix temporaire et qu'on est sur une reprise de l'inflation. Et comme on le sait, c'est que souvent, quand les prix ont augmenté, après, pour revenir en arrière, c'est très, très difficile. Et je ne parle même pas des matières premières, parce que quand je parle des matières premières, en tant qu'industriel, c'est pas que le pétrole, c'est tous les métaux précieux et autres. Il y a quelque chose dont on ne parle absolument pas, c'est le tungstène.
La base de l'industrie.
Ah oui, je veux dire, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le tungstène. Je rappelle que pour les néophytes, on utilise le tungstène dans tous les outils de coupe qui servent à usiner et à fraiser des pièces. Pas de tungstène, pas d'outils de coupe, pas d'outils de coupe, pas de pièces.
Voilà. Donc, non, mais c'est important cet avis parce que c'est du vécu tel que vous partagez, Laurent. Olivier, sur la situation américaine. Non, mais juste le coup d'œil, j'allais dire, sur l'état de l'économie américaine au-delà de la Fed. Hein.
Bon, moi, j'ai une vision qui est plus micro. Hein. Je pense qu'elle a été bien expliquée.
Elle est complémentaire aussi.
Aujourd'hui, moi, ce que j'entends surtout, et je vais peut-être vous permettre de faire la bascule, c'est l'inquiétude sur la situation européenne et du marché.
Hein. On va y venir. Là.
C'est-à-dire que vous avez des activités aux États-Unis, ça vous permet de donner un regard de chef d'entreprise en micro sur l'économie américaine, complémentaire à celui qui vient de donner Christian. Moi, ce que j'entends des chefs d'entreprise français, et notamment industriels, c'est surtout une inquiétude sur la situation économique de la France et de l'Europe, et où on a un sujet de croissance avec des chiffres qui viennent de tomber et qui font tomber le voile. C'est-à-dire que ce qui était vécu par les chefs d'entreprise au quotidien, avec une situation très dure, très difficile, n'était pas reflété dans les chiffres macro qu'on nous présentait. Ben voilà, on vient de, je pense, à l'instant...
La facture est tombée. Là.
La facture est tombée, le voile vient d'être déchiré.
On va préciser, Olivier, pour que chacun comprenne, hein, et puis Christian, je vous laisse réagir. Donc ce matin, il y a une double publication de l'INSEE. D'abord, il y a vraiment l'élément un peu surprise de la matinée, c'est que la croissance française au premier trimestre ressort nulle, c'est-à-dire 0%, ce qui est une très mauvaise augure pour le reste de l'année, sachant que l'objectif était à 0,8, 0,9. Et 0,9 en nul au premier trimestre, c'est plutôt un scénario récessif qui peut se dessiner. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Christian, puisqu'on va traverser l'Atlantique, on va s'ancrer aussi côté France, ça va pas tellement mieux aussi sur l'inflation, puisque l'inflation en avril a bondi à 2,2%. Alors là, on est en plein dans le choc énergétique.
Et je rappelle,
énergétique.
Olivier permet... On est à 2,2 en avril, on parle de la France.
Oui.
En mars, en rythme annuel, on était à 1,7. Et en février, on était à 0,9. Donc vous voyez le phénomène d'accélération dans un contexte où il y a encore dans les tuyaux, et je rejoins ce que vous disiez tous les trois, c'est-à-dire il y a dans les tuyaux un potentiel de sursaut d'inflation supplémentaire, qui me paraît clair. Bon, et par rapport à la croissance en Europe, je suis complètement d'accord avec ce qu'ont dit Laurent et Olivier, c'est-à-dire que l'Allemagne, avant même les dernières nouvelles, je veux dire la semaine dernière, l'Allemagne a déjà divisé par deux sa prévision de croissance pour 2026. Ils sont à 0,5, 0,6, ils étaient à 1%. Et l'Allemagne, elle sort quand même d'une période de deux années de récession et d'une année à zéro l'année dernière. Donc pas terrible. Et nous, je pense que le gouvernement va être obligé, au moment où on parle déjà de la préparation de la loi de finances pour 2027, on va être obligé, pour des raisons de transparence et démocratique, je dirais, dans les relations entre gouvernement et Parlement, on va être obligé, assez vite, sans courir après les événements, de réviser à la baisse la prévision de croissance. Ça veut dire moins de rentrées fiscales, ça veut dire plus de dépenses, ça veut dire... On était très contents à la fin de l'année dernière, 2025, parce qu'on avait fait en 2025 un déficit public de 5,1%. Je parle toujours de la France. Alors qu'on attendait 5,4, doucement le cocorico. Je veux dire, ça va être compliqué.
Bah, l'objectif
dans un contexte politique que j'ai pas besoin de décrire.
Oui, l'objectif des 5%, qui est l'objectif de cette année.
Très compliqué.
S'annonce très, très, très.
Et vis-à-vis de Bruxelles, alors, vous avez vu, parenthèse, que, en Allemagne, il y a un débat parce qu'ils sont en coalition, mais certains voudraient un peu mettre en parenthèse le pacte de stabilité budgétaire en disant, nous sommes dans une période exceptionnelle, exceptionnellement difficile, et donc faut-il continuer à respecter les normes européennes. Je ne prends pas parti à ce stade-là, c'est compliqué, mais je dis, la question, elle apparaît, et je pense qu'elle va être relayée du côté français, à tort ou à raison, hein, à la lumière de ces chiffres.
Alors, Laurent Olivier, je vous entends sur la situation française. Là, il y a le vécu tel que vous le décriviez, Laurent, qui est intéressant, c'est-à-dire l'impact outre-Atlantique qui a été très immédiat. Ce que décrivait Olivier aussi, finalement, une espèce de décalage où on était encore dans des projections, on en a plus 0,3, plus 0,4, et puis la facture finalement est tombée ce matin entre ce qu'on ressentait tous les uns les autres de la réalité de quelque chose qui se dégrade quand même de semaine en semaine. Là aussi, vous sentez cette dégradation locale en France, chez Hervor, tout simplement.
Bah, je dois rendre hommage à l'émission parce que les doutes sur les prévisionnels de croissance,
ils ont été
évoqués dans cette émission, pas la semaine dernière, hein. Ça fait des mois et des mois et des mois.
Ouais.
Dans le tissu industriel que je pense modestement bien connaître, le ralentissement généralisé, il s'est pas opéré la semaine dernière. Moi, je l'ai clairement dit ici, il y a six mois, je veux dire que nous avons des sous-traitants qui travaillent, qui sont multisecteurs, hein, et qui ont de la capacité. Ça, c'est un indicateur qui est fort. Quand vous avez des stocks de matières premières qui s'empilent, ce sont des indicateurs qui sont forts. Donc, nous avons clairement alerté sur ce risque. Et quand on a eu les prévisionnels de croissance, je vais être un peu impertinent, mais si vous voulez, c'est toujours...
On est là pour ça.
Quand on fait des budgets, alors on fait des prévisionnels de croissance, et honnêtement, parfois, on se demande d'où ça sort.
Du hors-sol.
On se dit, mais avec tout l'appareil statistique qu'on a, toutes les compétences qu'on a... Bah, peut-être que certains, je vais encore une fois être un peu impertinent, il faudrait peut-être qu'ils écoutent les experts. Parce que les gens qui sont dans le concret ont vu le ralentissement il y a 8-9 mois.
Donc plutôt l'été dernier.
Exactement. Alors là, en ce moment, on est confronté quand même à deux secteurs forts qui sont vraiment en difficulté. C'est l'automobile. Ça, c'est pas arrivé la semaine dernière. Okay, avec tout le réseau de sous-traitants derrière.
Énorme.
Vous avez aussi un secteur dont on parle peu parce qu'on pense que comme il y a des commandes records, eh bien que toute la sous-traitance est florissante, c'est l'aviation civile. Je dis bien qu'il faut distinguer l'aviation civile de l'aviation militaire parce que dans l'aviation civile, vous avez des fournisseurs avec des marges extrêmement minces.
Oui.
Ok, donc qui s'apparente à ce qui se passe dans
l'automobile. Et un Airbus qui a du mal à monter en puissance sur
mais
le.
Oui,
sur
mais oui, mais c'est la poule et l'œuf, parce que pour monter en capacité, il faut investir, et l'argent ne tombe pas du ciel, contrairement à ce que pensent certains. Et puis le troisième secteur, je crois que là, j'ai pas besoin de faire un long développement, c'est tout ce qui touche de près ou de loin au bâtiment, l'immobilier, la construction, la promotion, tout ce qui tourne autour. Donc on a quand même des secteurs importants qui ne tournent pas bien. Et qui, si vous voulez, ont un impact direct sur le prévisionnel économique du pays.
Olivier Flamet, juste une phrase.
Christian.
Olivier, juste une phrase par rapport à ce que dit Laurent. La hausse des taux d'intérêt qui est dans le tuyau ne va pas améliorer les choses.
Ah bah ça, c'est sûr.
C'est certain. Notamment sur l'immobilier.
Olivier, sur l'immobilier. J'ai l'impression que ce matin, et merci Laurent de le signifier, c'est-à-dire que nous, ce qu'on ressentait, le nous collectif étant les experts et le fait qu'on se rencontre depuis plusieurs mois, à ce matin, ça devient quelque chose enfin sur lequel on peut discuter un peu sérieusement. Vous n'êtes pas surpris non plus parce que finalement ce coup de frein, enfin, qui est expliqué comme un coup de frein, mais qu'on voyait arriver depuis des mois et des mois et des mois.
Alors, on le voyait arriver, on a averti, on est plusieurs à l'avoir fait. Il est vrai qu'il y a des filières qui vont, on dit moins industrielles du moins, qui vont relativement bien, tandis que d'autres vont très mal. Bon, l'aéro, c'est vrai que sur aujourd'hui les sous-traitants, il y a un problème de montée en capacité, mais globalement la filière tire. Sur l'énergie, ça va tirer aussi. Donc il y a quelques grandes filières sur ce qu'on a appelé les technologies vertes. Alors c'est vrai que c'est un renfort d'argent public qui va se raréfier, mais ça tire pas mal. Et donc on a quand même un paysage industriel qui était hétérogène. Ceux qui observaient un peu la globalité, et la référence aux sous-traitants multisecteurs est excellente pour prendre un point de température, c'est que globalement, il y avait une souffrance en moyenne. Il y avait des filières qui vont vraiment très mal, tu les as citées, l'automobile, d'autres qui tenaient bien, mais globalement, on voyait pas la croissance qui nous était, ou la bonne humeur qui nous était affichée dans des grandes déclarations, dans des grandes inaugurations, dans des grands discours. Voilà. Donc aujourd'hui, les faits sont têtus. La réalité économique revient. Quelque part, les prévisions, c'est bien, mais c'est le micro qui fait la richesse de tous les jours qui doit être distribuée, qui crée la richesse dans les entreprises et qui est redistribuée. Alors, maintenant, l'espoir qu'on peut avoir, mais encore une fois, l'échéance politique majeure en France de 2027 se rapproche, c'est est-ce que sur la base de cet atterrissage, d'une certaine façon, de cette jonction entre le micro et le macro, on va enfin pouvoir avoir un diagnostic réel et enclencher une réflexion collective, sereine, stable, robuste. Voilà un peu le pari qu'on a à 12 mois des élections présidentielles. On n'est pas dans une boule de cristal, mais on est un peu dans l'utopie, quoi, quand même.
Ah, un pari redoutable.
Hein. Je suis d'accord avec Olivier. Christian. J'aimerais bien, mais j'y crois pas trop.
Ouais.
Voilà. J'aimerais bien parce que, effectivement, la situation est très compliquée. Par rapport à ce que disait Laurent, ce que vous avez dit tous les deux, c'est que les problèmes ont commencé avant la guerre au Moyen-Orient, je veux dire.
Absolument.
Déjà, l'affaire des droits de douane nous a mis dans un climat quand même assez délétère, montée du protectionnisme. Et très franchement, je veux pas, on a tous eu raison, eu tort sur certains points, mais quand je parlais il y a quelques mois autour de cette table des conséquences des droits de douane, Trump et la réponse, on voyait bien que ça allait avoir deux effets. Un effet inflationniste, y compris du côté américain, et un effet récessionniste. Alors, les événements dramatiques au Moyen-Orient rajoutent une couche. Et par rapport à ce que disait Olivier, j'allais dire, il y a l'échéance de 2027 qui est très importante, et il va y avoir un problème d'articulation entre le court terme et le long terme, à la fois de la part des candidats et du côté de l'opinion publique, des Français. Est-ce que ça va être le moment ou pas de rouvrir les débats sur un certain nombre de réformes. Et quand je dis réforme, c'est pas uniquement le débat sur la réforme des retraites, les problèmes industriels, l'articulation industrie-service, les problèmes de formation, d'éducation. Je veux dire, pour moi,
majeur.
On est plusieurs autour de cette table à être professeurs. Je veux dire, c'est majeur. Et moi, à titre ponctuel, par exemple, mais c'est pas ponctuel, je suis très inquiet de voir que les contraintes sur les finances publiques, qui vont faire que s'accentuer, conduisent le gouvernement à mettre en cause une grande partie de l'apprentissage et de l'alternance. Ça a l'air d'un
sujet... Olivier qui lève les mains. Pour
bah
ceux
on
qui
en a tellement parlé ici que... mais tout à fait.
J'étais pas avec vous à ce moment-là. C'est pour ça que je me permets de le dire.
Bien sûr,
c'est
quand je même, partage.
C'est très inquiétant.
C'est hyper inquiétant.
Voilà, donc moi, je veux dire, il faudrait que les chances fondamentales de l'année prochaine soient l'occasion de remettre à plat un certain nombre de choses. Il risque d'y avoir de part et d'autre le primat du court terme. Et pour remettre à plat, il faut quand même essayer de définir une vision, une stratégie au moyen long terme. C'est le problème de l'articulation des horizons.
Tout à fait.
Laurent, vous voulez réagir?
Oui, sur quelques éléments qui ont été mentionnés. Nous parlions tout à l'heure de l'inflation aux États-Unis, mais il faut savoir que les droits de douane qui ont été imposés par Trump, nous, nos produits, du jour au lendemain, c'est pris 35%. 95% de ces droits de douane n'ont pas été pris en charge par les exportateurs. Ils ont été répercutés sur les prix américains. Donc c'est 95%.
C'est une forme d'impôt finalement.
Donc c'est 95% des Américains qui ont payé cette surcharge protectionniste. Ça c'est la première chose. Donc ça c'est quand même assez
inflationniste. Et mécanique inflationniste.
Par rapport à ce que disait Olivier, et ça c'est très intéressant, c'est que tous les chiffres qui nous abondent sont des chiffres qui sont des moyennes. Donc c'est aussi bien les entreprises qui marchent qui ne marchent pas. Enfin, quand je dis ça, je crois que j'apprends rien à personne. Ce que je constate, c'est que toutes les entreprises industrielles qui ont une vraie proposition de valeur, qui ont vraiment des produits très pointus sur des segments, sur des niches, elles vont très bien. Nous en faisons partie. Bon, il faut dire que c'est la conséquence d'une part de la raréfaction de l'offre industrielle, c'est-à-dire que le besoin existe toujours, mais il y a moins d'entreprises pour les fournir.
Les survivants, quelque part.
Les survivants, bah, ceux qui ont développé les anticorps et qui se sont positionnés à l'international. Maintenant, la dernière chose concernant l'enseignement, parce que moi j'ai un pied dans l'enseignement, puisqu'on a démarré un projet qui s'appelle Espérance banlieue, on ouvre des écoles. Un pays qui fait le choix uniquement de la redistribution sans se soucier d'investir massivement dans l'école et dont les élèves est un pays qui est condamné à terme. Et je pense que c'est très inquiétant de voir qu'aujourd'hui, en plus avec il y a eu une réforme qui est passée quasiment inaperçue, c'est le cumul emploi-retraite, donc qui permet à des gens qui ont la sagesse, les anciens, de rester plus longtemps pour se frotter avec des générations jeunes qui arrivent. La réforme du cumul emploi-retraite fait que ces gens-là ne sont plus incités aujourd'hui à travailler et à rester dans les entreprises. Donc, on a une école qui est quand même qui est hoquette. On a des anciens qui partent plus tôt. Et on a une succession de défis technologiques, sociologiques, internationaux qui arrivent.
Et démographiques.
Et démographiques. Donc, là, vous voyez, c'est quand même un peu inquiétant.
C'est embêtant. Moi, dans la vie, je suis plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Enfin, depuis le début, je constate que, y compris votre serviteur, nous sommes dans un contexte un peu morose, pour ne pas dire plus.
juste avant qu'on marque une pause, il y a quelque chose sur lequel je voudrais entendre mes commentaires sur la publication de la note de l'INSEE là, sur la croissance au premier trimestre. Parce qu'il y a après il y a le détail, on va dire sur la conso, ça commence à caler. La conso des ménages fait -0.1% au premier trimestre contre +0.4% au dernier trimestre 2025. Mais là, le gros trou d'air, c'est le commerce extérieur. Le gros trou d'air, fortement négatif, c'est-à-dire le commerce extérieur sort à -0.7% après +0.6% au dernier trimestre 2024, et les exportations se replient, on est à -3.8% après +0.8%. C'est-à-dire qu'il y a un trou d'air absolu sur le commerce extérieur français. Ça vous surprend, Laurent, Olivier ?
Un petit peu. Moi, je demande à regarder un peu plus dans la précision. Quelque part, on a toute notre structure de coûts, hein, et puis les effets en retard des taxes Trump. Hein, on sait très bien que quand elles ont été annoncées, il y a eu du stock qui a été fait ou de la commande en avance qui a été faite.
On s'en sort avec les stocks, hein, d'ailleurs.
Alors, et donc là, maintenant, je pense qu'on a ce type d'effet. Je vous rappelle, les États-Unis, ça doit être quasiment 13 ou 15% des exports de l'Union européenne, hein, ou de la zone euro. Donc, c'est naturellement impacté. Voilà, petit commentaire.
Les stocks, justement, contribuent à 0,8%. Sur le PIB, c'est-à-dire ce que signalait Laurent à l'instant.
Si je peux dire juste un mot, ça traduit le contexte mondial. déprimé, dépressif, récessif. Bon, alors il y a encore des poches de croissance. Il y a des poches de croissance dans certains secteurs. La défense. Alors ça rejoint les débats dual, pas dual, civil, militaire. Est-ce que l'augmentation des dépenses de défense peut profiter ou pas aux civils? En France, en différence des États-Unis, on ne gère pas très bien cette dualité civile-militaire du point de vue de la recherche, je pense. Et puis, il y a le problème des contrastes entre pays. Moi, je regardais les dernières prévisions du FMI qui ont été publiées la semaine dernière, il y a 15 jours à l'occasion de l'Assemblée annuelle. Bon, ce qui me frappe, c'est que le FMI est extrêmement conservateur dans ses prévisions par rapport à ce qu'il disait au mois de janvier. Je parle des prévisions d'avril. Depuis deux mois, on est quand même dans une drôle de situation sur le plan international. Eh bien, le FMI continue à prévoir pour aujourd'hui, c'est-à-dire 2026, l'année prochaine, des croissances mondiales à 3 et quelques pourcents. Alors, il y a la Chine ralentit, il y a un certain nombre de pays émergents, dont l'Afrique subsaharienne, dont on parle pas assez. Moi, très africain, si je puis dire, dans mes centres d'intérêt, je constate que l'Afrique est un peu le sacrifié des débats actuels, excusez-moi de le dire. Et pas que l'Afrique, d'ailleurs. Mais il faut pas s'étonner après que ce qu'on appelle le Sud global, concept un peu vague, continue à contester le poids, l'importance du Nord. Et je termine là-dessus parce que, travaillant sur les questions monétaires, il y a une petite nouvelle qui est pour moi un indicateur significatif. Les Iraniens ont dit qu'ils allaient peut-être ouvrir le détroit d'Hormuz à condition que les Américains fassent de même, etc. Je te tiens pas la barbichette. Ils ont dit, on fera payer un droit de douane, un péage, en rial iranien, monnaie faible que personne ne connaît, etc. Mais je veux dire, on est dans un monde où l'économie va pas bien, la géopolitique est très, très, très agitée, et vous avez des contestations à la fois est-ouest et nord-sud qui existent, il faut être réaliste, et qui sont pas terribles pour l'économie mondiale. Donc j'ai terminé vraiment en disant que moi ça m'a vraiment étonné ces dernières prévisions du FMI qui revoient à peine les prévisions qu'ils faisaient au mois de janvier. Et je me dis que d'où ça sort.
Alors, en tout cas, ce matin, on aura vécu ce qu'on partageait depuis des mois sur ce plateau-là, c'est le fait que, enfin, l'INSEE s'aligne sur ce qu'on nous ressentait au sein des experts depuis au moins septembre. On marque une pause et puis on se retrouve sur l'industrie notamment et sur les géants de la tech américains. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présente les experts. Ludovic de Sauté.
Le retour sur le plateau des experts avec nous ce matin, Laurent Vronsky, Christian Deboissieu, Olivier Lancy, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités. On s'est quitté sur un mot, Christian, morosité. Laurent avait envie de rebondir sur le mot morosité. Morosité que vous partagez ou que vous réfutez?
Je pense que, bon, déjà, la France a une propension naturelle à toujours regarder le verre à moitié vide. Et comme disent certains, je vais aller français, c'est le seul peuple qui vit au paradis et qui pense qu'il est en enfer. Bon. Je pense qu'encore une fois, la réalité est faite de nuances de gris. Je suis pas d'un optimisme béat. Mais déjà, l'optimisme, si vous voulez, est d'humeur et le pessimisme de volonté. Je pense que dans le secteur économique que je connais, qui est l'industrie, encore une fois, vous avez les entreprises qui vont très bien, Olivier l'a dit. Je veux dire, on n'est pas en 1929. Bon, il y a effectivement une actualité qui est très chargée, mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises qui font les choses bien, c'est-à-dire qui se souviennent que le seul patron véritable d'une entreprise, c'est le client, que, en clair, il faut peut-être penser un tout petit peu en dehors du cadre, qu'il faut aller se projeter à l'extérieur, enfin, tout ce que l'on dit régulièrement dans les experts. Je veux dire, ces entreprises-là, généralement, arrivent à s'en sortir. Donc, moi, je ne suis pas, pessimiste. Simplement, je pense que là, tout ce que nous évoquons dans cette émission depuis des années, c'est-à-dire les problèmes structuraux, la surcharge fiscale, etc., ben je dirais, dans des temps difficiles que nous vivons, bien, prennent encore plus de relief. Là, vous voyez, ça fait 6 mois où c'est difficile pour les entreprises. Mais quand on se remémore la séquence budgétaire avec le PLF 2026 et les propositions de certains pour encourager les gens à plus investir, plus travailler, plus repondérer, c'est juste lunaire. Et vous allez voir qu'on va y avoir droit pendant les 12 mois qui vont venir. Donc là aussi, il y a un choix de société. Quand on a un homme qui a du mal à respirer, est-ce qu'on lui ouvre la fenêtre ou est-ce qu'on lui met un baillon sur la bouche ?
Bon, voilà, c'était le coup de gueule de Laurent.
Ce matin. Oui, parce que.
Allez, on s'intéresse. Désolé, Laurent, parce que je vais un peu vous contredire, mais c'est, enfin, pas que, mais c'est. Je voulais qu'on s'arrête notamment avec Olivier sur ce qui se joue un peu dans l'automobile ces derniers temps, c'est-à-dire finalement voir des logiques d'alliance de constructeurs automobiles chinois qui commencent à être intéressés par les capacités de production d'usines en Europe qui tournent pas à plein régime. Loin s'en faut, notamment du côté de Stellantis, c'est-à-dire à quel point le monde va vite. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait pris, on aurait échangé il y a 20 ou 30 ans, on aurait parlé de Peugeot et Citroën qui allaient tenter de faire gérer de la capacité de production en Chine.
Et Volkswagen, les marques allemandes, et ainsi de, n'en parlons ainsi de suite.
Ouais, n'en parlons pas. Là, c'est tout l'inverse qui se joue, c'est à quel point la bascule est féroce dans ce secteur-là.
Elle est féroce et il faut en tirer les constats. Je veux dire, on a une, peut-être deux générations de retard technologiquement, notamment sur la voiture électrique. J'avais dit ça dans une audition au Sénat, la commission était tout d'un coup silencieuse. J'avais dit, il faut considérer que dans un certain nombre de secteurs, on est un pays en voie de développement. Et quand je dis un pays, c'est pas que la France, c'est l'Europe, on a raté. Pas dans tous les secteurs, mais dans certains secteurs, dont l'automobile.
On a raté la marche.
On s'est même tiré un peu une balle dans le pied. On va pas revenir sur le sujet. Maintenant, ce qu'il faut, c'est accepter ça. On va pas refaire la recherche qu'ont fait les Chinois. Et donc, moi, je plaide pour que l'accès au marché européen soit conditionné. Mais comme les Chinois l'ont fait il y a une dizaine d'années, hein, on pouvait rentrer en Chine à condition de faire une JV à 50-50 et souvent, elle terminait à 51-49 au profit des Chinois, petite parenthèse, et on faisait du transfert de techno. Eh ben, il faut qu'on adopte ce type de comportement-là. Donc, que les Chinois arrivent en Europe avec leur techno en récupérant des capacités, ben, c'est pas plaisant, mais c'est peut-être notre chemin de croix qu'il faut faire passer. Par contre, il faut le conditionner. Et là, c'est vrai que j'ai été très critique sur l'accélérateur industriel
présenté en mars
Stéphane Séjourné, notamment sur la définition du Made in France, c'est pas le sujet. Il y a quelques idées intéressantes dedans sur le contrôle des grands investissements et notamment ceux-là, sur des transferts de technologie. Aujourd'hui, ça reste des intentions. Il est urgent, ce qui me paraît le plus urgent, c'est pas de freiner l'arrivée des Chinois. C'est-à-dire, c'est une déferlante, ils ont une technologie, les consommateurs européens vont vouloir en profiter, on peut pas leur nier ça. Mais c'est de faire en sorte que nous puissions profiter de cette ouverture du marché européen pour des contreparties afin de remonter une industrie en Europe.
Je veux bien préciser pour que chacun comprenne, c'est-à-dire que à vos yeux, Olivier, qu'un Dongfeng, BYD, enfin peu importe, hein, le XPeng, enfin les différents grands constructeurs chinois qui sont en surcapacité aujourd'hui et qui ont besoin d'un accès à un marché européen viennent demain potentiellement s'installer à Rennes ou ailleurs à Valence dans des usines Stellantis. C'est plutôt, in fine, une bonne nouvelle.
C'est pas une bonne nouvelle.
Non,
mais on n'arrête pas le destin.
On refera pas l'histoire.
On refait pas l'histoire. Donc, acceptons-la et utilisons le levier que nous avons, c'est-à-dire le marché européen qui reste conséquent, même s'il a beaucoup diminué, comme un levier. Encore une fois, un levier de transfert technologique et puis aussi un levier d'investissement. C'est-à-dire, si ces usines sont uniquement des montages avec trois vis, j'exagère, de pièces, de composants faits en Chine, dont toute la valeur ajoutée en Chine, là, on est quand même légitime de dire, c'est pas tout à fait le deal qu'il faut faire. Mais encore une fois, ces investisseurs-là ont une technologie que nous n'avons pas développée. On va pas payer le redéveloppement de cette technologie-là. Profitons-en en mettant des conditions. C'est ce qu'ils ont fait et qui leur a très très bien réussi pendant des décennies. Simplement, il faut beaucoup d'humilité. Parce que l'Europe, le leader technologique, etc. Là, il faut considérer que sur ce secteur-là, et c'est pas le seul, hein, d'ailleurs, on a un retard technologique et donc il faut adopter des comportements comme l'Inde l'a eu sur les Rafales, comme le Brésil l'a eu sur les sous-marins, comme la Chine l'a eu pendant des décennies et qui a nourri son succès.
Et cette humilité, on l'a aujourd'hui, Olivier ?
Ben, je sais pas encore.
Laurent, sur Christian, sur ce transfert, Laurent, sur ce changement de pied quand même, hein, historique. Hein.
Alors moi, je l'ai déjà vécu une fois. Hein. Je l'ai vécu une fois dans les années 80, j'habitais aux États-Unis et il y avait exactement la même situation avec les constructeurs américains et les constructeurs japonais. L'histoire l'a un peu oublié. Et donc monsieur Reagan à l'époque avait mis des taxes pour éviter que les consommateurs américains achètent massivement des voitures japonaises. Qu'ont fait les Japonais? Exactement la même chose. Toyota est venu, Honda, etc. Ils ont repris, ils ont construit des usines américaines avec des travailleurs américains. Ils ont fabriqué des voitures aux États-Unis et ils ont connu le succès que l'on connaît. Donc l'histoire, je veux dire, ça s'est déjà répété.
Ça se répète.
Et donc c'est pas du tout inédit, quoi. Par contre, la seule chose qu'on apprenne de l'histoire, c'est que les gens apprennent rarement de l'histoire. Et donc, je pense qu'en Europe, on savait très bien que, et c'était marqué dans un document que peu de gens connaissent, qui s'appelle China Manufacturing 2025, édité par le Parti communiste chinois, qui listait les priorités industrielles, comment on allait le faire et avec qui on allait le faire. C'était ouvert. C'était pas du tout un document secret. Donc, si on avait eu les esprits éclairés qui avaient lu ce document.
Et l'humilité, donc.
Il y aurait, alors, mais c'est pas que l'humilité, c'est aussi, je pense, beaucoup de dogmatisme. C'est-à-dire qu'on a fait des choix technologiques. Les choix technologiques ont été faits par des gens qui ne sont pas légitimes pour les faire.
Tout à fait.
Et si on avait laissé aux industriels qui connaissent la technologie, on leur dit, on aurait fixé un objectif. Après, on laisse aux hommes de l'art libre cours pour faire ces choix technologiques. Je pense qu'on n'en serait pas là. Poser la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est bien ou c'est pas bien? Mais malheureusement, on n'a plus le choix. C'est quoi l'alternative? Alors, on va, si vous voulez, avoir une déferlante de produits chinois parce qu'ils ont 10 ans d'avance. Donc, aujourd'hui, c'est du dérapage quelque part contrôlé. On va faire venir des industriels chinois. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne nouvelle parce que je ne pense pas que tout va être fabriqué en France. Et c'est exactement ce que vous avez dit. Une grande partie va être fabriquée ailleurs. Donc, la voiture, oui, elle sera montée en France. Elle sera montée. Et puis, c'est les entreprises chinoises. Ça veut dire que c'est aussi de l'argent qui va quitter la France et la zone euro. Donc non, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est le moins pire. La seule chose que j'espère, et là-dessus, je serai un peu pessimiste, est-ce que finalement, ce que nous vivons actuellement va servir de leçon dans les 5 ans à venir pour les grands tournants stratégiques que nous devons prendre en tant que Français et en tant qu'Européens?
Alors, Olivier le notait à l'instant, il y a quand même une histoire dans l'histoire, c'est que c'est pas juste, contrairement à l'épisode japonais que vous décriviez très bien, Laurent, sur l'automobile américaine des années 80 qui a été attaquée, c'est que là, en plus, il y a rupture technologique dans l'automobile, on va dire la bascule sur l'électrique, se pose du coup en creux la question de la R&D, alors sur lequel, là, peut-être on a eu un manque d'humilité, et je vais vous entendre sur notamment sur le CIR, le crédit impôt recherche.
Est-ce que je peux réagir avant?
Alors, Christian, réagissez avant, allez-y.
C'est pas pour le plaisir de parler, alors que mes petits copains ont déjà parlé, c'est... Première chose qui me frappe, moi je suis impressionné de la vitesse avec laquelle la Chine est passée d'une situation d'importation de technologie à une situation dans laquelle, aujourd'hui, la Chine est sur ce qu'on appelle la frontière technologique dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire c'est elle qui mène le bal, alors qu'il y a 10-15 ans, elle suivait. Et je pense que dans cette affaire-là, Laurent disait, nous avons fait preuve de dogmatisme. Je pense que l'Europe a fait preuve aussi de naïveté. C'est pas le seul domaine dans lequel l'Europe a fait preuve de naïveté. On a fait preuve de naïveté dans le domaine monétaire pendant longtemps, aujourd'hui dans le domaine réglementaire, sur pas mal de sujets en matière industrielle. Deuxième remarque, je voudrais quand même citer le rapport Draghi de septembre 2024, parce que la réponse, sur beaucoup de sujets, la réponse, elle doit être plutôt européenne que nationale pour bénéficier des effets de taille. Et là, c'est un des sujets, c'est pas le seul, traité dans le rapport Draghi, qui consiste à dire l'Europe est fragmentée malgré le marché unique. On profite pas des effets de taille, donc on profite pas des ce qu'on appelle les économies d'échelle qui permettent d'améliorer la compétitivité. Et je pense que la question donc qui est posée aujourd'hui, c'est dans un contexte où nous sommes un an et demi après la présentation de ce rapport Draghi, pratiquement rien n'a été avancé. Le seul domaine sur lequel on parle un peu, c'est ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux, ce qui s'appelle aujourd'hui, d'ailleurs, l'union de l'épargne et de l'investissement. Le fait que si on avait des marchés financiers plus solides, plus intégrés, ça profiterait aux entreprises, y compris au tissu, j'allais dire, des grosses PME qui pourraient, dans ce cas-là, peut-être plus facilement aller en bourse et qui aujourd'hui souffrent peut-être de contraintes sur la distribution des crédits bancaires. Donc, voilà, l'Europe, elle est naïve dans un monde qui l'est pas. Et un dernier point pour provoquer la réaction des petits camarades autour de la table sur le CIR.
On vous suit, Christian, on vous suit bien.
Le crédit impôt recherche, ça coûte à peu près 8 milliards d'euros par an. Mais pour moi, très clairement, j'annonce la couleur, Je pense que les avantages l'emportent sur les inconvénients. Et donc, je trouverais ça... Il faut peut-être le peaufiner, il y a des effets d'aubaine. Les PME se plaignent d'en profiter moins que les grosses, par définition. Mais je trouve que ça a été... Je dis pas ça parce qu'Hervé Novelli a publié ce matin dans les Échos un papier pour défendre ce qu'il avait contribué à créer. C'est pas le sujet. Mais je trouve que parmi les niches fiscales, il y en a beaucoup à supprimer ou à réduire. Les niches fiscales, c'est pas loin de 100 milliards d'euros par an. Il y en a 400 et quelques. Il y en a beaucoup trop. Ben, il y en a une à laquelle moi, je toucherai pas sur le principe, quitte à l'améliorer, à la peaufiner, c'est le crédit impôt recherche.
Alors, Olivier, Laurent, sur le crédit impôt recherche, qui, comme aujourd'hui, il se pose la question, on va dire, pour résumer ce que dit Christian, on va essayer de nettoyer les niches. C'est une des niches qui coûte le plus cher aujourd'hui, de l'ordre de 7,7 milliards. Évidemment, le crédit impôt recherche a un peu la tête qui dépasse sur la photo.
Il y a une tendance très hexagonale, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui marche bien, il faut qu'il y ait des esprits éclairés qui le tripatouillent. Alors que, dans la mécanique que je connais bien, généralement, quand ça marche, on n'y touche pas. Bon. Le crédit impôt recherche a été vilipendé. On a dit oui, mais ça profite essentiellement aux grosses entreprises, pas aux PME, etc. Mais je veux dire que on compare des pommes et des oranges. Dans le monde de la PME, vous n'avez pas des équipes dédiées ou très peu à la recherche. Donc tout le monde fait de la recherche et du développement. Et très souvent, les PME n'utilisent pas le crédit impôt recherche parce que elles savent pas comment. Parce qu'évidemment, vous savez qu'en France, on ne sait pas éteindre la lumière sans avoir un manuel des procédures qui fait 150 pages et puis trois contrôles derrière. Et donc, je pense qu'il faut plutôt expliquer les mérites et l'intérêt que présente le crédit impôt recherche aux PME, plutôt que de dire, ça marche pas bien, on va le supprimer. Je veux dire, je pense que c'est un exemple mortifère dans un contexte où, vous l'avez souligné, on a du retard technologique dans plusieurs secteurs. Alors, est-ce qu'il vaut plutôt encourager les gens à mettre de l'argent, mettre des ressources pour développer et innover, ou est-ce qu'il faut les encourager à partir ailleurs? Parce que vous avez aujourd'hui des sociétés, il faut le savoir, qui font de la recherche pendant 5 ans, 10 ans, donc qui n'ont pas un euro de chiffre d'affaires pendant 10 ans. Elles vivent de quoi? Du crédit impôt recherche. Donc ces entreprises-là, si demain on le sucre, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique. Ces gens-là vont aller là où ils vont avoir des financements et là où on va les aider. Et là-dessus, les Américains et les Chinois sont des champions du monde. Je vais citer de nouveau un exemple qui est récent. Vous avez eu le plus beau salon mondial sur le nucléaire. Je rappelle quand même que pendant 25 ans, c'était pas bien de faire du nucléaire. Maintenant, il faut ouvrir des centrales, on n'ouvre pas assez vite, mais pendant 25 ans, blackout. Vous aviez deux stands, c'était à Villepinte à Paris, vous aviez deux stands gigantesques, un stand américain et un stand chinois, qui avaient deux fonctions. Un, c'est de faire une vitrine technologique, et deux, de repérer toutes les sociétés qui exposaient et qui étaient intéressantes, pour globalement les inciter à venir produire ailleurs. Et là, on nous explique que le crédit impôt recherche, c'est pas une bonne mesure et que finalement ça marche pas bien, etc. Mais vous dites parfois il y a un vrai décalage entre ceux qui vivent l'économie et ceux qui la contemplent.
Olivier, sur le crédit impôt recherche, votre regard en tant que spécialiste de l'industrie.
Oui, je vais revenir juste un mot sur le mot de naïveté parce que j'ai bien entendu Christian. Naïveté, ça voudrait dire qu'on ne savait pas. Et quand tu utilises le mot dogmatisme, ça veut dire on sait mais on veut pas voir.
Exactement.
Et je crains que ce soit plus le mot de dogmatisme que le mot de naïveté, parce que China 2025 était public, le rapport Draghi est connu depuis 18 mois, et comme ça, on peut en aligner des dizaines et des dizaines. Et donc, hélas, nous sommes sans doute plus dans un monde dogmatique que dans un monde naïf. Nous n'avons pas voulu voir. Ça demande de travailler l'humilité. Après, sur le CIR. Le CIR, je pense, est caractéristique de la situation qu'on connaît. Aujourd'hui, le CIR permet à avoir des ingénieurs de recherche dans les boîtes, je parle pas de la partie, qui soient à peu près compétitifs avec le reste. Donc, on a une surtaxation du travail et notamment des hauts salaires, puisque nous n'avons pas les seuils limitants qu'on peut trouver en Allemagne, d'accord? Donc, des ingénieurs, Bac plus 5, PhD, etc., qui font la recherche dans les boîtes, coûtent très cher au total aux boîtes, et donc on met derrière, dans notre modèle habituel, une compensation qui s'appelle le CIR, afin de rendre les choses on met la rustine. Bon, la rustine, elle est énorme, parce que l'enjeu est énorme. Je dirais, il faut surtout pas enlever la rustine, sinon le pneu crève. C'est ce que tu disais, hein, on se retrouvera à plat, ces ingénieurs iront ailleurs. Le patron de Safran expliquait très clairement ça chez lui, et à un moment donné, même des boîtes avec un ancrage, des grands groupes avec un ancrage territorial français, si on n'a pas cette compétitivité de l'ingénieur, iront le chercher ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est la règle économique de base, c'est celle qu'on a, dans laquelle on a décidé de vivre. Donc il ne faut pas supprimer le CIR, ou si on veut le supprimer, travaillons beaucoup sur les charges sociales, notamment sur les hauts salaires, ce qui est un sujet encore plus large, ok. Et puis il y a sans doute des améliorations à faire sur la simplification. Moi, je rappelle que on a toujours cette image très forte de nos fleurons dont on est fier, etc. Les PMI dans l'industrie font à peu près 30% du chiffre d'affaires, 30% des salariés. Elles font quand même 20% de la recherche privée. 20% de la recherche privée dans l'industrie est faite par les PMI. Ils ne touchent pas 20% du CIR. À cause, je dirais, de logistique, de sujets de logistique. Voilà. Donc, il y a sans doute des choses à réformer, mais on n'enlève pas la rustine quand le pneu est crevé, ou alors on change la roue complètement, mais ça, c'est pas à l'ordre du jour. C'est ce qu'on a expliqué pour les 10 mois à venir.
Je peux dire un mot ?
Christian, rapidement.
Je veux pas avoir le dernier mot par rapport à Olivier. Je voudrais juste préciser pourquoi j'ai parlé de naïveté. Pour moi, être naïf, c'est penser que les autres sont plus gentils qu'ils ne sont. Que penser que les autres vont respecter des règles du jeu que soi-même on respecte. Je travaille beaucoup sur la réglementation bancaire. Bon, l'Europe, ceinture et bretelles du côté de la réglementation bancaire, pendant que les autres sont en train de déréglementer, etc. Est-ce que ce n'est pas une forme de naïveté ou de bêtise, on peut changer les termes, de penser que finalement, ça sert à quelque chose d'être le meilleur élève de la classe. Dans certains cas, il ne faut pas être le meilleur élève de la classe, parce que ça se retourne. Et deuxième point, je voudrais revenir sur le secteur de la défense, parce que le débat sur la recherche est quand même assez lié à ce qui se passe du côté de la défense et à l'augmentation des dépenses de défense. Ce qui m'a frappé, quand je regarde l'industrie de défense en France, il y a les grandes, bon, qui font de la recherche, parfois duale, civile-militaire, mais à mon avis, pas assez duale. Les retombées civiles ne sont pas toujours au rendez-vous. Et puis, dans la filière défense, vous avez 4000 PME, bon, qui jouent un rôle relativement important, et ça serait intéressant, je n'ai pas les chiffres, de savoir, quand je ne sais pas, je le dis, de savoir ce que donne l'emploi du CIR, du Crédit Impôt Recherche, dans cette filière défense, du côté des PME, grosses, moyennes, petites. Mais quoi qu'il en soit, et là je crois qu'on converge, c'est que Crédit Impôt Recherche, pas de touche. On peut l'améliorer peut-être, le peaufiner, mais pas le casser. Surtout pas le casser.
Il en reste 5 minutes, je voudrais vous entendre. Hier, il y a eu une ribambelle de résultats des géants de la tech américaine. Il y en a encore ce soir, avec notamment Apple. Alors là, changement d'échelle, mais autre aussi rupture technologique, hein, même si c'est pas dans l'industrie. Là, on parle notamment de cloud et d'IA, avec des résultats, je vais pas tous les énumérer, ils sont assez nombreux, mais je vais juste en citer un, c'est-à-dire Alphabet, qui est la maison mère de Google. Au dernier trimestre, les bénéfices nets, c'est 62 milliards de dollars, en hausse de 81%. Essentiellement alimenté par le tandem cloud IA. Là aussi, donc pour faire le parallèle avec l'automobile, on a l'impression que l'Europe ne joue pas dans la même cour qu'un monde qui est en train aussi d'alimenter la croissance américaine, par ailleurs.
L'investissement américain.
Ouais.
Alors je pense que là, vous êtes un peu sévère. Il y a eu encore une fois un magnifique salon industriel qui s'est tenu. Quelques kilomètres d'ici, qui s'appelle Global Industrie, et on voyait clairement, si vous voulez, l'adoption par beaucoup de secteurs de l'IA.
Qui était à Villepinte, quel grand salon, du secteur industriel.
Donc, on présente souvent les industriels comme des ringards qui savent à peine lire et écrire et qui savent juste manipuler le marteau et le tournevis. Écoutez, moi, ce que j'ai vu à Global Industrie, on est à des années-lumière. Donc, il y a, si vous voulez, une vitesse d'adoption de ces outils qui est absolument extraordinaire, avec, si vous voulez, à la clé, quand même, et là, on peut finir sur une note optimiste. Autant vous avez des métiers de service qui vont disparaître, qui vont être rayés de la carte, et ça malheureusement c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant, autant dans l'industrie on va vraiment avoir, si vous voulez, l'industrie augmentée. C'est-à-dire que dans des métiers...
Mais la question c'est, est-ce que tout ça c'est pas avec de la technologie américaine ?
Non mais j'y viens. Donc déjà, si vous voulez, il faut pouvoir adopter. Après, mais on reboucle avec tous les sujets qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que toutes ces sociétés, elles ont aussi, on l'a souvent oublié, dans la Silicon Valley, vous avez eu des programmes qui ont été financés par le gouvernement américain, que ça soit par le biais de la défense ou des programmes civils. Donc là, il y a des questions, toutes les questions qu'on vient d'évoquer sur le CIR, sur la manière dont l'État français ou l'Europe traite ses industriels ou ses centres de recherche. Là, il faut avoir des réponses tout de suite maintenant. Sinon, oui, on ne va pas, parce qu'on l'est déjà, on va poursuivre, si vous voulez, la colonisation numérique menée par les entreprises américaines.
Là aussi, décrochage européen, Olivier
sur... Oui, on en a déjà parlé. Je pense que la première urgence qu'on a, c'est on va avoir des milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures. Moi, je reviens non pas sur le soft, mais sur le hard. Là, même chose que ce que je disais un petit peu sur l'automobile. C'est-à-dire, il y a entre 60 et 120 milliards d'euros d'investissement dans des data centers qui sont planifiés en France. Les chiffres qui sont pas publics du ministère et ceux qui sont publics de Trendéo, c'est... Où est-ce qu'il est, le plan français ou européen, parce que là, je pense que ça se joue à l'échelle européenne, pour faire en sorte que dans 10 ans, alors aujourd'hui, il y aura quelques pourcents de Made in Europe dans ces data centers, mais que dans 10 ans, il y ait 80 à 90%. Je pense qu'il faut reprendre étage par étage, escalier par escalier, marche après marche, cette souveraineté qui nous a échappé. Le premier truc, c'est essayons de faire en sorte de tenir les infrastructures, d'être capable de les construire avec nos propres technos. On peut toujours courir derrière ces grandes plateformes. Le jour où on sera capable de mettre l'argent qu'un seul de ces grands acteurs met sur la recherche, au niveau même français sur la totalité, enfin c'est des chiffres c'est vertigineux.
On va citer les chiffres, c'est-à-dire que l'année dernière, pour prendre Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon, c'est 410 milliards de dollars d'investissement dans l'IA, et cette année, les 4 mêmes vont, d'après les projections, c'est le Wall Street Journal qui a fait le calcul, vont probablement investir de l'ordre de 670 milliards. Donc, on parlait d'un crédit impôt recherche à 7 milliards.
Et justement, Olivier vient de poser le problème du financement. Parce que le problème de l'Europe et aussi de la France, bon, c'est pas, je veux dire, nous avons de l'épargne, c'est pas un problème. La question de savoir à quoi elle sert. Et nous avons les uns les autres, y compris en France, un problème de tuyauterie, c'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures pour faire en sorte qu'une partie plus importante de cette épargne aille pour financer ce qu'il faut financer. Alors le long terme, la transition énergétique, écologique, la défense, compte tenu de la situation géopolitique, les infrastructures, etc. Bon, dans un contexte de finances publiques, qu'on a tous rappelé au début de l'émission, qui ne va pas être facile et qui va être de plus en plus compliqué si la croissance se dérobe. Bon, et donc moi je pense que le sujet qui est posé, c'est pour régler ce problème de tuyauterie et attirer une partie plus importante de l'épargne des ménages vers ce qu'il faut financer, il y a un premier débat sur est-ce qu'on a les bons produits financiers pour ce faire ? J'en suis pas sûr. Et deuxièmement, est-ce qu'on a la bonne politique fiscale de l'épargne ? Je suis sûr qu'on l'a pas.
Okay. Oui, Laurent, oui, alors moi je vais skier dans les traces d'Olivier. Je pense qu'il y a vraiment une question d'attitude avec l'histoire des data centers. Eh bien, mais moi j'ai vécu industriel, on adore, mais loin de chez nous. Okay. Donc vous avez beaucoup de communes qui ont mis les industriels dehors. Nous-mêmes, on a été mis dehors par Clichy-la-Garenne. Herbor à 80 ans, déjà on nous a poussé dehors deux fois. On avait fait la même chose avec les centrales nucléaires. On a dit, Et là maintenant, on fait la même chose avec les data centers. C'est-à-dire que maintenant, on commence à entendre des bruits de communes qui ne veulent pas de data centers. Mais là, voilà, il y a un vrai choix de société à faire. Est-ce qu'on veut faire fonctionner du cloud américain ou est-ce qu'on veut avoir nos propres clouds ?
Merci Laurent, merci Christian, merci Olivier pour ces débats qu'on va reprendre et qu'on va recroiser, je crains, dans les mois qui viennent. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes BFM et RMC en replay. Tout de suite, c'est Tout pour investir, le best-of. Et puis lundi, vous avez le plaisir de retrouver Raphaël Legendre. Bon week-end du 1er mai à toutes et à tous. Salut.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.